Divergence FM, l'interview.
Alors bonjour Jean-Philippe Turpin, merci d'être sur l'antenne de Divergence FM à Montpellier. Alors je vous appelle parce que vous êtes... Vous occupez d'un cas, je dirais, dramatique qui s'est déroulé l'an dernier, hein, nous sommes bien d'accord, un 8 avril 2020, et ça fait un an. Ça fait un an, alors on va parler d'une marche de soutien qui devrait, j'emploie le conditionnel, se dérouler le samedi 10 avril à partir de 14h, au départ de la sous-préfecture de Béziers. Alors il s'agit d'un homme. Il s'agit d'un homme qui est décédé. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler, hélas, dans quelles conditions ?
Absolument, bonjour. Donc, effectivement, il s'agit de la mort de Mohamed Gabzi, qui est décédé donc le 8 avril, il y a maintenant un an, à Béziers, suite à un contrôle, en fait, de la police municipale. Mmh. Il se trouve que Béziers a fait partie des premières villes qui ont instauré un couvre-feu, alors que c'était pas du tout le cas ailleurs dans...
À cette époque-là, il n'y avait pas de couvre-feu, en effet. Oui.
Absolument. Et Mohamed est descendu de chez lui pour s'acheter des cigarettes après le couvre-feu.
D'accord.
Vers 21h30. Et il y a eu un contrôle de police, donc la police municipale, qui s'est mal passé. Et lors de ce contrôle, donc ils l'ont pris un peu à plusieurs, ils étaient trois policiers. Ils l'ont maintenu et ils ont voulu l'emporter dans la voiture. Et Mohamed Gabzi est mort pendant le trajet, dans la voiture, ou pendant le trajet qu'il a amené au poste de police nationale. Donc en fait, les causes de la mort sont absolument les mêmes que celles de George Floyd.
Oui, aux États-Unis, bien sûr, qui a fait la une de tous les médias.
Mais, absolument.
Mais donc, il faut savoir aussi que M. Gabzi, il avait un problème de santé aussi, je crois.
Absolument. Hein. Alors il y a deux choses à dire. La première, c'est que Monsieur Mohamed Gabzi était une personne schizophrène.
Ah oui, en effet.
Donc effectivement, c'était quelqu'un qui était malade. Cette schizophrénie était reconnue depuis très longtemps, depuis qu'il avait l'âge de 16 ans. Et donc c'était une personne tout à fait vulnérable.
Fragile, on peut dire très fragile.
Absolument,
hein, voilà.
Fragile. Et c'était connu de la part des policiers. C'est-à-dire que les policiers le savaient, le connaissaient. Mm-hmm. Il y avait régulièrement des contrôles de la police nationale qui très souvent appelait notamment sa sœur pour qu'elle vienne le récupérer.
D'accord.
Mais c'était pas du tout quelqu'un de violent ni agressif. Hein. Il avait, voilà.
Parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus, bien entendu. Hein. Vous savez, c'est tellement terrible après la mort d'un homme, surtout quand elle est survenue après une intervention policière. On a tendance à dire oui, mais vous savez, on ne sait pas qui il était, etc., etc. Ouais. C'est un petit peu les rumeurs de la ville de Béziers. On peut dire
absolument.
qui nous arrive jusqu'à Montpellier, vous voyez.
Tout à fait. Et donc c'est vrai aussi. Donc ça, c'était la deuxième chose à dire, que il était consommateur de drogue. Hein, donc oui. il consommait de la cocaïne. Là, c'était le cas. L'autopsie prouve qu'il avait consommé de la cocaïne, mais moi j'allais dire c'est pas une raison.
Ah, c'est pas une raison pour mourir.
Voilà,
hein.
C'est pas une raison pour mourir. Ce qui me gêne le plus dans cette histoire, c'est justement cette question de vulnérabilité et le fait, si vous voulez, qu'il était connu pour ça et qu'il suffisait que la police l'amène à l'hôpital ou la téléphone à sa famille comme il faisait d'habitude.
À sa sœur notamment qui s'en occupait.
Sa sœur qui s'en occupait. Donc oui. Voilà, c'est vrai que dans les rumeurs a été dit que c'était un SDF, qu'il habitait à la rue, ce qui n'était pas du tout le cas. Hein. Il avait un appartement, il a des enfants.
Trois enfants, je crois. Et il est mort à l'âge de 34 ans.
Exactement, voilà. Donc il y a quand même des soucis quand on regarde les vidéos, parce que donc cette arrestation a été filmée, heureusement. Mm-hmm. Donc c'est pour ça aussi que nous, avec le collectif, on se bat un peu contre la loi sécurité qui est en train de se mettre en place, parce que c'est l'exemple type où le fait que des voisins aient pu filmer l'action amène des preuves tout à fait incontestables sur les actes qui ont été commis par la police municipale.
Oui, et puis c'est vrai qu'avec cette nouvelle loi, peut-être qu'on ne pourra plus faire ce genre de choses. Ce sera interdit, si j'ai bien compris. Hein, je n'ai pas tout compris de cette nouvelle loi. Mais en tout cas, elle renforcera les prérogatives des policiers par rapport aux citoyens. Récemment, j'ai eu la chance d'avoir au téléphone quelqu'un de la Quadrature du Net.
Oui.
Je voyais qui je veux dire, c'est Juliette, qui est la spécialiste de la technopolice. C'est effrayant, ce qui est en train de se mettre en place, les drones, les contrôles faciales. Ça, c'est de notre côté, nous, les citoyens. Et de l'autre côté, dans la police, c'est au contraire, interdiction de filmer, floutage, etc. Bon, donc les citoyens se prennent en charge, et notamment du côté de Béziers, je vois, puisque vous ne laissez pas tomber. Vous ne laissez pas tomber après un an, on pourrait dire, bon, les choses auraient pu retomber. Mais vous, avec votre collectif, vous avez envie que la mémoire continue pour, on pourrait dire, plus jamais ça. Non, c'est ça un peu le principe.
C'est tout à fait ça le message. On n'oublie pas depuis le début, c'est-à-dire que depuis que le collectif s'est mis en place, on s'est mis en place à peu près en juin l'année dernière. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de s'assurer que la justice va passer, mmh. que la justice soit dite. C'est vraiment ça qui nous motive. Donc c'est vrai que nous, on a fait une espèce de pression citoyenne en rappelant. Donc en fait, effectivement, le 8 avril, on fait une manifestation un peu plus importante. Mmh. Mais depuis le mois de juin, tous les 8 de chaque mois, on a commencé ça en juin, juillet, août, etc.
D'accord.
On fait une présence de manière à rappeler ces événements, parce qu'effectivement, on considère que ces événements sont absolument anormaux, qu'ils n'ont pas existé dans la société dans laquelle on est. Donc voilà.
Et la peine de mort a été abolie, je crois.
Hein. Il me semble aussi. Oui, et le 8 avril, donc ça, c'est pour un peu, alors on ne va pas dire fêter, mais rappeler cet événement au bout d'un an. Aujourd'hui, la procédure judiciaire semble avancer, mais c'est vrai que c'est un peu long. Donc on souhaite que voilà montrer que la société civile ne laisse pas faire ces actes comme ça.
Ces actions comme ça. Et voilà. sur la région de Béziers, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés pour faire attention aux dérives. Notamment, je suppose que vous connaissez le collectif Visa 34 aussi.
Hein. Tout à fait, voilà. Il y a des membres qui sont présents dans le collectif.
Voilà.
Mohamed.
Là aussi, j'ai interviewé il n'y a pas tellement longtemps une des personnes responsables de ce collectif. Et c'est assez effrayant tout ce qu'il nous raconte dans ce qui se passe autour de Béziers. Hein,
alors c'est vrai que pour nous, alors là, nous on est bien focalisé sur le cas de Mohamed,
oui,
mais c'est
sûr,
évident qu'on ne peut pas faire ne pas penser à la politique municipale. Hein. C'est-à-dire que là, clairement, enfin moi je fais un lien direct, Ménard avec avec son discours, et je vous renvoie, il y a quelques années, il avait mis des affiches dans toute la ville de Béziers en disant « le nouvel ami de la police municipale » avec où on voyait un pistolet qui
Tu m'en rappelles de ça.
Il était très fier d'armer sa police municipale. Mmh. Je pense que là, on a un exemple type où un discours, donc celui de Ménard, ouvre la possibilité à des personnes de se lâcher en quelque sorte.
Oui, c'est ça. En fait, c'est ce discours qui permet de dire nous, on est protégés par les autorités.
Nous, on est protégés par les autorités. Et au contraire, on nous demande de faire des choses. Mmh. Et clairement, là, pour moi, j'analyse ça tout à fait. Enfin, le cas Gabzi, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que les policiers municipaux se sont lâchés, quoi.
Ouais, ils se sont lâchés parce impunis.
Absolument. Ils se sentaient protégés, ils se sentaient soutenus par tout un discours. Alors évidemment, Ménard dira, évidemment, j'ai pas commandé ça.
Mais bien sûr que non, bien sûr que non.
C'est pas lui qui commande ça, mais son discours permet ça. Ouais. Et tout le danger de la force du discours. Hein, le discours qui autorise des policiers à faire ça, qui autorise des personnes à penser qu'on peut être raciste, qui autorise à penser, etc., etc. Et là, on a un exemple précis de ce phénomène-là, et je pense que nous, on essaye aussi de démonter ce pouvoir du discours, et de montrer que ça a des influences directes et qu'à la fin, il y a des morts à la fin.
Et écoutez, Jean-Philippe Turpin, d'abord, je vous remercie à nouveau d'avoir accepté ma petite invitation au téléphone. Et puis, donc, on renverra, grâce à un petit article qui sera sur notre site, vers le comité Justice pour Mohamed. Hein. C'est votre collectif. Et puis, pour que la mémoire... Et la mémoire, c'est très important. La mort est passée, on ne peut plus rien y faire. Hein, nous sommes d'accord. Mais la mémoire, c'est une arme. C'est une arme très importante pour ne pas oublier et ne pas surtout que ça recommence. Vous êtes bien, je crois que c'est ça le moment de la fin. Voilà. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions sur Divergence FM. Alors, notre bassin d'écoute ne va pas jusqu'à Béziers même, mais on va jusqu'à la limite de Béziers. Mais vous pouvez évidemment nous écouter sur le net, hein, tout simplement.
Très bien, ben merci. Je donne rendez-vous à toutes les personnes qui le souhaitent à Béziers, donc le 10 avril à 14h, si ce n'est pas annulé. Pour l'instant, on maintient.
D'accord. Merci.
Merci à vous.